Je passe la parole à Jean-François Dehec.
Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? Si j'étais aussi pessimiste qu'à ma droite, je pense qu'à 71 balais et après 49 ans de cotisation sociale, j'irais voyager et écouter de la musique plutôt que de passer mes journées complètes dans l'industrie. Si j'étais aussi optimiste que Denis, je pense que j'aurais tendance à dire bah, « laisse donc aux plus jeunes le soin de faire les choses et toi, va t'occuper d'autre chose ». Moi, je pense que la situation, elle est très grave. Je pense que, oui, peut-être qu'on a fait des tas de rapports, mais on n'a jamais tiré aucune conséquence. Je pense que rien de tout ça n'a été rendu public. Ça a toujours été planqué dans un placard d'un ministère ou d'un autre. Et qu'il y a surtout plein de choses à faire. Parce que, bon, bah, pour moi, l'industrie, c'est pas faire des grandes conférences aux investisseurs et aux analystes. Mais pour moi, j'avais 30 ans, je disais, l'industrie, ça sert d'abord à faire vivre des femmes et des hommes. C'est pour ça qu'on me considère comme vendu aux syndicats, qui sont d'ailleurs totalement absents, et du MOC et de tout ça. Hein. J'ai bien remarqué que c'est comme si les partenaires sociaux, ça n'existait que théoriquement. Mais pour ça, bien sûr, il faut gagner beaucoup d'argent. Sinon, on est toujours emmerdé par les actionnaires, les pouvoirs publics, tout le monde. Bon. Moi, j'ai monté un truc, je l'ai fait avec une volonté des godasses tricolores terribles. J'ai monté un système qui soit tel que, bien que faisant 9% de mon chiffre d'affaires en France, j'ai 40% de mes emplois à l'époque. Hein, j'ai quitté la direction générale des maisons il y a 3 ans. J'en ai fait le premier payeur d'impôts de France pendant 25 ans. Je trouve qu'il faut payer. Plus on paie d'impôts, plus on doit être heureux. Et moi, j'ai vu mes successeurs m'interroger où sont tes paradis fiscaux. Quand je leur disais que c'était la France, ça les choquait. Et voilà, quoi. Hein. Bon, je pense que si on n'a pas des godasses tricolores, ben, il n'y aura pas plus d'industrie en France. Ça ne peut pas se faire autrement qu'avec l'Europe, ça c'est évident, avec toute une série de contraintes qui nous amènent à travailler beaucoup aussi avec l'Europe. Mais je pense que la situation n'est pas du tout idyllique, que ça ne va pas très 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 bien, et que même bah, quand on a autant de chômeurs, tant qu'on a un boulot et qu'on n'a pas d'emmerdement pour gagner sa croûte, c'est facile à dire que tout va bien. Hein. Quand on voit le nombre de chômeurs qui traînent dans ce pays, il faut peut-être se souvenir un petit peu qu'à la limite, la Tunisie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pense que le climat social est en train de se dégrader de manière considérable parce qu'on s'est foutu des gens et qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire. Et je ne dirais pas à commencer par l'État, je dirais à commencer par les patrons. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et j'arrête là parce que ça pourra nourrir la discussion, si vous voulez, quelques petites incises de genre. Mais qu'est-ce qui est décidé? Il est décidé entre les partenaires sociaux, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, et les pouvoirs publics, de réfléchir à quelque chose qui ressemble à une mise en commun un petit peu des choses pour essayer de réfléchir à l'industrie. Ça a été les États généraux. Ça a été les États généraux. On met un tiers, enfin disons en gros, hein, il y a 9 ministres, je crois, plus le Premier ministre. Non, il n'y avait pas le Premier ministre aux États généraux, enfin peu importe. Mais mon ami Faure, là, il connaît 10 fois mieux ça que moi parce qu'il a fait un boulot exceptionnel pendant ces états généraux. Mais on essaie de faire en sorte de mettre des blocs ensemble et pas des blocs face à face. La discussion entre les patrons et l'État, c'est facile. Les patrons pleurent parce qu'il y a trop de charges sociales. La discussion entre les patrons et les salariés, c'est tout simple. Les salariés râlent parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat et les patrons parce qu'ils sont inondés de charges, etc. On a du mal quand même à faire naître quelque chose qui a une petite allure de discussion, de trilogue. J'ajoute que, personnellement, je pense qu'il faut rajouter les consommateurs et les collectivités locales si on veut être complet. Donc mon trilogue devient un pentalogue et j'y crois beaucoup. On fait les états généraux, on constate tout ce que vous avez dit est vrai, on constate des choses qui ont été examinées depuis un certain temps. La seule différence, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus du tout hein, au plan de l'opinion publique, c'est-à-dire de ce qui sont les acteurs, les grands acteurs de l'économie, sur les solutions à prendre. Alors ça, c'est déjà un problème. Non seulement on faisait des rapports, on les mettait dans les placards, mais en plus on a un vrai problème, c'est que de toute façon il n'y avait pas, non pas un consensus, parce que je ne crois pas du tout qu'on puisse trouver des consensus, mais des convergences. Donc on a essayé de faire des choses, ça a donné les conclusions des états généraux, ça a donné des histoires qui sont quand même pas mal. Je pense que je ne parle pas de la CNI, mais je parle de le problème d'essayer de moraliser un peu les rapports entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Bon, on n'a pas beaucoup avancé quand même. Il y a eu des grandes signatures faites avec des ministres, la presse, etc. Mais enfin, il faut bien reconnaître que quand on descend dans le bas de l'échelle, et alors moi, j'en suis à ma 807e PME visitée depuis 2 ans, Ben, ils sont toujours pareils. Hein, c'est-à-dire qu'après la crise, on leur dit, ben, les enfants, vous avez perdu vos fonds propres, ça c'est bien. Deuxièmement, vous n'avez plus de liquidité parce que vous avez vendu vos stocks pour avoir des liquidités. Alors ça repart, mais nous, on vous prévient, les prix, les mêmes qu'avant la crise. Les matières premières ont augmenté de 50 à 60%, on n'a rien à faire. L'énergie a augmenté encore d'un certain montant aujourd'hui. Bon, et puis on leur dit, les gars, si vous n'êtes pas contents, eh ben, on va aller en Malaisie, en Inde ou en Chine. Hein. Ça n'a pas changé dans l'immense majorité des cas. Alors là, évidemment, quand on fait des grandes réunions, moi, je vais dans toutes les réunions des syndicats professionnels, alors, vous pensez, il y a les 3 ou 4 têtes de chapitre qui sont là, qui président, puis il y a les 200 ou 300 mecs qui sont les gars de rang N-1, N-2, et on leur demande s'ils sont contents. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Le mec, il ne va pas lever le doigt, dis-moi, monsieur machin, qui vous fait les clavettes, je considère que vous conduisez comme... Donc c'est quand même un vrai problème difficile. On est devant les problèmes en ce qui concerne les PME, ça j'en suis absolument convaincu. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend toujours les mêmes histoires, les états généraux, donc on les décline maintenant au niveau conférence nationale de l'industrie. Vocation, bon, il y a 9 ministres, c'est déjà compliqué, ça montre bien que les choses ne sont pas très très simples. Il y a 9 ministres, il y a 10 syndicalistes, il y a 15 représentants des syndicats professionnels, des syndicats de terrain. Bon, députés, sénateurs, Parlement européen, etc. Bon, puis quelques personnalités. On met en place pour regarder les problèmes, parce que parler de l'industrie, ça ne veut rien dire du tout. Parler des filières, ça commence à vouloir dire quelque chose. Il n'y a pas un problème qui... Enfin, il y a quelques problèmes qui sont parallèles entre les différentes filières, mais chaque filière a ses problèmes spécifiques, qu'il s'agisse des problèmes de financement, qu'il s'agisse des problèmes de formation, qu'il s'agisse des problèmes de compétition internationale. Donc je pense que les 12 comités stratégiques de filières qui vont depuis le plus gros jusqu'au plus petit, c'est le consommateur final. Bon, alors arriver à faire comprendre que quand on est dans l'agroalimentaire, le consommateur final, pour moi, c'est quand même plus 50 millions de consommateurs que les gros des supermarchés, c'est un petit peu compliqué. Hein. Au départ, on ne met même pas les gros des supermarchés, donc on se fait un petit truc dans l'agroalimentaire tranquille entre soi, puis après, plus on descend, évidemment, plus les problèmes sont compliqués. C'est vrai de tous les secteurs. Ça, c'est bien. Ensuite, on a fait des comités transverses formation-emploi. Bon, ben, c'est clair, tu parles des ingénieurs, moi je vais parler des autres. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, elle souffre partout, dans toutes les PME, parce qu'il n'y a plus un soudeur, mais un soudeur, un CAP de soudeur. Il n'y a plus un brevet industriel de soudeur. Et des ingénieurs qui savent ce que c'est qu'une soudure, il n'y en a plus épais non plus. Hein, même ma belle école des arts et métiers, là que j'essaie de remettre un petit peu, la faire se réintéresser à l'industrie, je constate que les élèves ingénieurs, ils ne font plus rien de leurs mains, donc ils sont devant un ordinateur, puis de temps en temps, ils vous sortent un truc où le tuyau qui descend normalement les produits par gravité, il remonte vers le ciel. Bon, ils se posent des questions et disent, c'est pas moi, c'est la machine. Hein, et on dit, mais la machine, comment elle a fait ça? Ah ben, c'est pas moi, c'est un modèle mathématique. Et après, il faut aller trouver, il faut remonter au moins 5 étages hiérarchiques pour voir qui a fait le modèle mathématique. Bon, donc il y a un vrai problème, emploi-formation, c'est clair. Hein. On a tout saboté en 68 en mettant le collège unique. Tout gamin qui n'est pas bon en français ou qui n'est pas bon en maths, il est puni dans toute sa scolarité. On le balance dans les sections techniques. Comment s'étonner qu'il n'y a plus que des brels à l'autre bout, hein. Bon, ça c'est un vrai sujet, donc l'emploi-formation c'est un vrai sujet. Le financement, j'en parle pas. Hein. Je donne simplement un chiffre, puisque quelques chiffres, ce sera le seul que je donnerai. Les compagnies d'assurance exerçant en France investissaient 20% de leurs capitaux en 2000 dans l'industrie, en direction d'industrie. 2010, on est aux alentours de 3. L'écart entre les deux, c'est 300 milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est la capitalisation boursière du CAC 40. Il ne faut donc pas s'étonner que ça pose quelques problèmes. Hein. Et alors, le CAC 40, ça, je peux vous promettre d'expérience que si on a besoin de 15 milliards, on vous en prête 40. Hein. Mais la PME, quand elle a besoin de 40 000 balles, on prête pas. Alors on fait des totaux et on dit les 15 milliards que j'ai prêtés à telle grande entreprise plus les 45 000 euros que j'ai prêtés à telle PME, ça fait que les banques prêtent beaucoup d'argent aux entreprises. Le problème, c'est que les mecs en dessous, ils ne voient rien passer. Hein. Donc on a un vrai énorme sujet là. Après, on pourrait parler de la réglementation. Donc on fait aussi un groupe de travail sur la réglementation. Ça doit aboutir à effectivement quelque chose de très convivial. Il y a à peu près 3000 personnes qui à nouveau travaillent. Il y en avait 4500 en France, mais là, on en a à peu près 3000 et ça va grandir parce qu'il va falloir autoriser la province à se prononcer. Le pays jacobin, il était aussi girondin, mais les Girondins, elle les a tellement oubliés qu'il n'y a plus que les Jacobins. La province déteste Paris, Paris réciproquement. Et c'est un vrai sujet. Il faut brasser tout ça parce que les forces vives ne sont pas toujours là où on pense. Au bout du bout, une fois qu'on aura fait tous ces trucs, tous les ans, on est condamné à sortir un rapport public dont on nous dit clairement dans le décret qui dure post-2012. Hein. Je me suis battu pour que ça soit au moins en 2013, les nominations. J'ai rien à foutre de me battre. Je pense que l'industrie, c'est ni de gauche ni de droite. Hein, c'est un problème sérieux dans lequel il faut arriver à se passer de ce truc-là. Donc on nous dit, vous faites un premier rapport, une première partie, tous les secteurs industriels français, vous les regardez les uns derrière les autres, c'est les fameux comités stratégiques, vous racontez où ils en sont de la compétitivité internationale, vous racontez ce qu'ils gagnent comme argent, ce qu'ils dépensent comme investissement, ce qu'ils dépensent en recherche, et puis quels sont les problèmes qui se posent. Hein, alors ça, avec des comparaisons. Moi, je n'ai pas une admiration folle pour les Allemands, mais ça doit être un petit peu... je suis un homme de l'après-guerre, j'ai vécu dans un monde qui était un monde de résistants. Donc c'est vrai que pendant les années 50, on n'était pas fanatique. Ce n'est pas un honneur. Hein, mais simplement, je peux vous dire que quand on a 15 000 mecs à gérer à Francfort, vous négociez pendant 2 ans avec 2 hauts fonctionnaires, vous obtenez un accord et après vous avez tous les Allemands qui se foutent, les 16 000, ils se foutent en rang par deux derrière, vous êtes peinards pendant 2 ans. Si vous imaginez qu'on peut faire ça avec la France ou avec les Italiens, je pense que là, on rêve tout debout. C'est ce que j'explique tant que je peux au pouvoir public. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les Américains, moi, je n'ai pas une grande admiration non plus, hein, parce que je pense que les modèles qui nous ont filés et la manière dont, avec leurs déficits commerciaux, ils ont foutu tout le restant du monde dans la panade, je ne suis pas plein d'admiration. Le libéralisme, il a fait ses preuves. Le système soviétique, il a fait ses preuves. Il faut qu'on essaie de trouver quand même quelque chose entre les deux. Alors, on nous demande, premier point, ça. Deuxième point, on nous dit, vous regardez tout le pognon du contribuable, parce que l'État n'a pas d'argent, c'est le contribuable, c'est les quelques-uns qui ne sont pas en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, et qui paient beaucoup d'impôts quand il s'agit des particuliers, et puis les entreprises qui gagnent de l'argent en France, qui paient les impôts en France. C'est ça l'argent de l'État, hein. C'est le pognon des contribuables qui sont assez honnêtes pour avoir des godasses tricolores et payer leurs impôts en France. Bon, que ce soit des entreprises, soit des particuliers. Ben, vous regardez si l'usage qu'on en fait dans les aides, qu'elles soient fiscales, budgétaires, subventions, collectivités publiques, c'est dépensé à bon escient. Vous portez un jugement sur la manière dont ce soit dépensé. J'aime vous dire que cette deuxième partie du rapport, c'est la plus difficile. Les forces conservatrices du pays s'opposent à ce qu'on dise, ce qui se passe. Ça me paraît une évidence. Hein. Troisième truc, on nous dit, il y a un troisième volet. Vous nous regardez tout ce qui, en termes réglementaires, de lois, de décrets, de machin, concerne l'industrie et ça coince l'industrie, ça l'embête, ça la gêne, ça lui retire de la compétitivité ou pas. Bon, voilà. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça dans un pays dans lequel, chaque fois qu'on fait un tour de table très vaste, on est convaincu que les cartes ont été distribuées, chacun à sa main. Mais comme il n'y a personne qui veut foutre une carte sur la table, tout le monde joue au poker tricheur, au poker menteur. Et ça fait donc qu'effectivement, plusieurs décades qu'on joue au poker menteur dans ce pays sur l'industrie. Il va peut-être falloir passer à autre chose.
Mais alors, finalement, vous n'êtes pas loin d'être d'accord avec le procureur. On aura l'occasion de dire...
Non, le procureur...
Vous êtes optimiste, mais quand même, vous dites...
Non. Bon, le procureur, il a dit des choses, beaucoup de choses que je suis prêt à contredire.
D'accord, on y reviendra pendant le débat.